Des tonnes de déchets plastiques, une grande barrière en péril, de moins en moins de poissons, le réchauffement, l'acidification qui prennent de l'ampleur, la santé des océans et leur biodiversité marine subissent des pressions de plus en plus fortes. C'est le dossier cet après-midi de la Tête au Carré, avec un tableau plutôt sombre que nous allons dresser, donc de l'état de nos mers et de nos océans. Pour en parler, je recevrai le chercheur en écologie Jean-François Guiglione, qui a participé entre autres à l'expédition Tara, et Jean-Pierre Gattuso, directeur de recherche au CNRS, qui a étudié entre autres la grande barrière de corail. Vos messages et vos questions dès maintenant sur franceinter.fr et également sur les réseaux avec le mot-clé l'attaque. Et puis c'est à la une de la science aujourd'hui, l'eau terrestre ne viendrait pas des comètes, on en parle au conditionnel, ce sont les tout nouveaux résultats obtenus par la sonde européenne Rosetta. On vous donne les détails dans un instant et on précise les choses. Violaine Ballet réalise cette nouvelle Tête au Carré qui a été préparée par Sylvain Guilbeault et Axel Villard.
La Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Bonjour Jean-François Guiglione.
Bonjour.
Vous avez participé à la dernière expédition Tara, donc en Méditerranée. Vous avez traqué le plastique pour étudier son impact sur la chaîne alimentaire. Est-ce que nos mers et nos océans sont devenus de véritables décharges publiques ?
Effectivement, en fait, le problème des déchets dans les océans, c'est un peu à l'image de nos sociétés de consommation. On a des résultats qui sont assez édifiants sur les déchets en mer qui sont constitués à 80% de plastique. Et il y a des résultats récents en fait, qui ont montré qu'on a plus de 250 000 tonnes de plastique dans nos océans.
Oui, c'est une publication hein, qui vient juste de paraître.
Effectivement, ouais, et c'est équivalent à peu près à 1% de la production de plastique mondiale par an.
Ouais, donc toute la Méditerranée, c'était vraiment l'objet de cette expédition Tara, contient du plastique en fait.
Ouais. Ouais, on a visité 13 pays et on est allé donc, des côtes françaises jusqu'à Beyrouth au Liban. On a fait tout le tour de la Méditerranée et bah, c'était vraiment édifiant chaque fois qu'on a relevé nos filets, on avait des morceaux de plastique partout et ils sont vraiment dispersés partout dans toute la Méditerranée.
Voilà, édifiant et alarmant, vous nous expliquerez pourquoi les micro-fragments, hein, en particulier de plastique, sont particulièrement menaçants pour la chaîne alimentaire. Et puis nous aborderons d'autres sujets d'inquiétude autour donc, de la biologie marine. Malheureusement, dans ce domaine, les exemples ne manquent pas. On se retrouvera donc avec le chercheur Jean-Pierre Gattuso qui sera avec nous en duplex de Nice. Les messages, donc dès maintenant sur franceinter.fr. C'est aujourd'hui à la une de toute l'actualité scientifique. L'eau terrestre ne viendrait pas des comètes.
Today it's an important milestone of the Rosetta mission. So I wish bon courage to all the scientists which are today waiting for the data. Thank you very much.
Et donc à la une de la science aujourd'hui, des nouvelles de la mission spatiale européenne Rosetta. Hier, les premières analyses de l'atmosphère de la comète Chury étaient publiées par la revue Science Express. Et là, surprise générale, l'eau de nos océans ne viendrait peut-être pas des comètes. Henri Rem, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes en ligne avec nous depuis Toulouse. Vous êtes astrophysicien et professeur à l'université Paul Sabatier pour le laboratoire IRAP. Philippe Pénarejos est également à mes côtés en studio. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Henri Rem, l'eau sur Terre, ça ne vient pas des comètes, on en est sûr maintenant ?
Alors, je ne serais pas aussi affirmatif. Si vous voulez, nous avons eu des mesures de l'eau lourde dans la comète Churyumov-Gerasimenko. L'eau lourde, c'est la même chose que l'eau. L'eau, c'est de l'hydrogène et de l'oxygène. Eh bien, l'eau lourde, l'hydrogène, est de l'hydrogène deux fois plus lourd parce qu'il y a un neutron dans le noyau. Donc, en fait, on sait différencier c'est de l'eau lourde, vous avez entendu parler de la bataille de l'eau lourde pendant la guerre, l'eau lourde de l'eau normale. Et cette eau lourde est en quantité très faible dans les océans terrestres, c'est à peu près 1,55 ce rapport, 10 millièmes. Vous voyez, c'est très très faible ce rapport. Et bien dans la comète Churyumov-Gerasimenko, ce rapport est près de 3,5 fois supérieur. Donc manifestement, cette comète que nous étudions, et c'est la comète où l'on a trouvé le plus grand rapport comme ceci eau lourde sur eau normale, et donc elle n'est pas une source probable pour les océans terrestres.
Alors c'est ça Philippe Pénarejos, hein. Là on a étudié Chury, donc on en tire une conclusion par rapport à cette comète, mais on ne peut peut-être pas généraliser pour autant. Hein.
Mais oui, puisqu'on a, si mes souvenirs sont exacts, ausculté comme ça, six comètes au préalable, dont une Hartley 2, qui est un peu de la même famille que Jury, mais la même famille du point de vue de l'orbite. Hein. Ça ne veut pas dire qu'elle est née pareil, forcément, hein, dans les mêmes conditions. Donc cette comète Hartley 2 a visiblement un rapport D sur H qui, lui, fonctionne très bien avec les océans. Et on est resté sur ce dernier résultat, mais les cinq autres comètes qu'on avait déjà auscultées auparavant avaient un rapport D sur H plus élevé que sur Terre. Alors pas autant que Jury, mais intermédiaire, on va dire. Si bien que avant Hartley 2, c'était en 2011, on se disait ben, peut-être que ça ne vient pas tellement des comètes, l'eau des océans, mais plutôt des astéroïdes. Et pourquoi on disait ça? Parce que dans les météorites qui sont des bouts d'astéroïdes qui sont tombés sur Terre, on a fait alors là, beaucoup de mesures comme ça et on a trouvé de l'eau. Et là, alors, le rapport des surhaches fonctionne parfaitement bien, enfin assez bien avec l'eau terrestre.
Alors, des surhaches, vous nous précisez?
Alors, c'est le rapport entre les molécules d'eau qui sont faites avec de l'hydrogène lourd, on va dire, avec un proton et un neutron dans le noyau, donc qui est plus lourd que l'hydrogène normal, on va dire, qui est fait juste avec un proton. Quoi.
Alors, Henri Rehm, donc, il faut être précautionneux, hein, effectivement, dans l'annonce qu'on fait de cette publication.
Oui, mais si vous voulez, je vais préciser. Moi, j'ai à peu près une dizaine de résultats de comètes. Les comètes ont deux origines. Une origine relativement proche, à disons 50 fois la distance Soleil-Terre, qui est une seconde ceinture d'astéroïdes qu'on appelle la ceinture de Kuiper. Et d'autres qui sont beaucoup, beaucoup plus loin, à 100 000 fois la distance Soleil-Terre. Et cela, les rapports que l'on avait pour l'eau lourde par rapport à l'eau normale étaient très supérieurs aux océans. Les deux mesures qu'on avait pour la famille proche, elles étaient très proches des océans terrestres. Eh bien, la surprise de Churyumov-Gerasimenko, c'est que c'est une comète dont on pense qu'elle s'est formée relativement proche, mais qui a le plus haut rapport d'eau lourde par rapport à l'eau normale. Donc, en fait, on est en train de penser que les comètes proches n'ont pas été toutes formées au même endroit et que donc le rapport dépend de la distance de formation par rapport au Soleil. Plus on est loin du Soleil et plus il y a de l'eau lourde par rapport à l'eau normale.
Oui, ça veut dire quoi, Philippe Hénarejos? Que Churyumov n'est peut-être pas la bonne candidate justement pour savoir si peut-être l'eau terrestre provenait des comètes?
Peut-être effectivement que c'est un cas particulier et ce que vient de dire Henri Rehm me suggère une question à son encontre. C'est est-ce que finalement, plus on forme une comète loin du Soleil, plus le rapport est élevé, c'est bien ça, ce qui voudrait dire éventuellement que Jury, avant de se retrouver sur une orbite très courte, aurait été formée très très loin dans le nuage de Oort.
Alors, où elle a été formée relativement loin, mais quand même aux confins de la ceinture de... aux confins de Saturne, mais elle est restée loin. Mais surtout, elle peut très bien être venue du nuage de Oort et puis avoir eu son orbite, sa trajectoire complètement modifiée en passant au voisinage des planètes géantes que sont Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune qui perturbent complètement les trajectoires des comètes.
Alors, Henri Rehm, les résultats qu'on a obtenus donc, hier et qui font la une de la science aujourd'hui nous viennent de la sonde Rosetta hein, qui tourne autour de la comète Jury et non pas du petit robot Philae dont on a beaucoup discuté. Comment Rosetta a procédé justement pour faire ses analyses?
Alors, c'est bien clair que notre instrument est posé sur l'orbiteur de Rosetta. Et nous sommes en orbite depuis le 6 août autour de la comète, ce qui a été un exploit fantastique, se mettre une sonde en orbite autour d'un corps qui n'a pratiquement pas de gravité. Pensez que les 100 kilos de Philae, ça représentait à notre échelle, c'est un corps de 1 gramme. Oui. Il y a un rapport de gravité fantastique. Bon, eh bien, on tourne donc depuis le 6 août autour de la comète, on s'est rapproché jusqu'à 10 kilomètres, et on a donc des mesures absolument claires de l'atmosphère, de ionisée et neutre de la comète. Mais surtout, ce qu'on va avoir, c'est que la comète va se rapprocher jusqu'à l'été prochain du Soleil, dont l'activité va augmenter et on va avoir de plus en plus de composés que l'on va trouver. Et en particulier, moi, il y a quelque chose, j'avais sur Giotto, qui était la sonde qui avait survolé la comète de Halley en 1986, j'avais deux instruments et on avait trouvé des molécules à base de carbone, hydrogène, oxygène, azote, mais on n'avait pas à l'époque des spectromètres qui donnaient une bonne résolution. Oui. Et là, maintenant, avec les excellents spectromètres qui marchent très très bien sur Rosetta, l'expérience Rosina, j'espère qu'on va trouver, c'est dans le détail, ces molécules organiques qui sont peut-être à l'origine de la vie sur la Terre.
Philippe, on regarde plus que jamais du côté des astéroïdes aussi pour l'origine de l'eau sur Terre.
A priori, les astéroïdes qui se trouvent entre Mars et Jupiter et ces fameuses comètes de la ceinture de Kuiper ont peut-être aussi une origine commune au tout départ, avant que les planètes se forment. Mmh. Après, ils ont été catapultés dans des endroits différents par les planètes, justement. Et c'est peut-être pour ça que certaines comètes et certains astéroïdes ont le même rapport des surâches qui est celui de l'eau des océans. Oui. Mais c'est encore à préciser. On voit bien que
voilà. Les comètes les orbites, n'ont pas dit leur dernier mot non plus.
Hein. Voilà. Mais on ne peut pas dire que les comètes n'ont pas apporté l'eau sur Terre, pas encore.
Merci Henri Rehm pour ces précisions. Mais
Vous étiez avec plaisir.
Avec nous en ligne depuis Toulouse. Merci Philippe Hénarejos. À très bientôt. Et puis en bref, dans le reste de l'actualité, dans la rubrique Médecine du Monde, on retrouve les polluants plastiques justement et leur danger pour notre santé. Cette fois-ci, il s'agit de notre cerveau avec des résultats publiés hier par l'Université de Columbia. Les enfants exposés in utero à des doses élevées de phtalates présenteraient un quotient intellectuel inférieur à celui d'enfants peu ou pas exposés. Selon l'auteur de l'étude Robin White, la baisse de 6 ou 7 points enregistrée du QI pourrait avoir des conséquences substantielles sur la réussite scolaire et le potentiel professionnel de ces enfants. Dans l'actualité zoologique du jour, l'histoire de cette guenon sage-femme qui est à lire sur le site de Science et Avenir, une scène rarement documentée qui est reportée par des primatologues de l'université de Pékin où une femelle semnopithèque vient prêter main forte à sa cadette qui vit son premier accouchement. Le nouveau-né a été extrait efficacement et fermement en 18 secondes. La photo de cet accouchement très particulier est sur le site de la Tête au Carré. La palme de la découverte de l'année décernée par le site de la revue Science revient cette année à la bactérie à ADN augmentée. Des chimistes californiens avaient en effet réussi à créer cette année de l'ADN semi-synthétique en ajoutant deux nouvelles lettres aux quatre qui composent la double hélice de l'ADN. Ironie de l'affaire, cette publication était parue dans la revue Nature, concurrent direct de la revue Science. Et puis enfin, à la une du Times, après Barack Obama en 2012 et le pape François en 2013, ce sont les combattants d'Ebola qui sont désignés personnalité de l'année 2014 par le magazine anglais. Plastique, réchauffement, acidification, grande barrière de corail, état des lieux des mers et des océans. Dans un instant, dans le dossier de la Tête au Carré.
When I ask you to, you just tell me.
Other, Janis Joplin à l'instant.
La tête au carré, l'actualité des sciences sur France Inter.
Et dans le dossier cet après-midi, on se penche au chevet de nos mers et de nos océans, l'état global donc du milieu marin qui se dégrade. On en parle avec mes invités qui, chacun dans leur domaine, sont les témoins de cette aggravation de la biodiversité marine. Jean-François Guiglione, donc vous êtes chercheur au CNRS en écologie, en écotoxicologie microbienne marine à l'Observatoire océanologique de Banyuls. Et vous avez participé donc à la dernière mission TARA en Méditerranée qui a étudié l'impact des plastiques sur la chaîne alimentaire. Bonjour Jean-Pierre Gattuso.
Bonjour.
Vous êtes avec nous en duplex de Nice, dans les studios de France Bleu Azur. Vous êtes directeur de recherche au CNRS. Vous travaillez à l'université Pierre et Marie Curie à l'Observatoire de Villefranche-sur-Mer. Et vous avez étudié, entre autres, la grande barrière de corail australienne. Les auditeurs nous rejoignent en direct. Les messages arrivent nombreux déjà. Franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Jean-François Guiglione, Jean-Pierre Gattuso, s'il fallait délivrer un premier bilan de santé global des mers et des océans de notre planète, qu'est-ce que vous nous donneriez comme information principale pour caractériser ce qui se passe actuellement dans le milieu marin, Jean-François Guiglione, par exemple ?
Aujourd'hui, en fait, on génère des quantités de déchets qui sont énormes. On arrive à estimer de mieux en mieux en fait, les sources des pollutions. On sait maintenant de mieux en mieux estimer l'état des océans. Mmh. Et on voit bien en fait, que l'état des océans se dégrade. Et ça, c'est relié directement à l'homme. On en est persuadé. Et aujourd'hui, en fait, il faut vraiment aller dans ce sens-là pour être sûr que nos politiques derrière nous suivent et répondre vraiment à ces problèmes de pollution en mer.
Oui, donc bilan de santé, plus que mitigé alors. Hein.
Évidemment. Oui.
Jean-Pierre Gattuso, de votre côté ?
Bien, les mers et les océans en fait, sont des intégrateurs aussi de tous les changements globaux. Hein. Ils sont le réceptacle de plus de 90% de l'excès de chaleur qui résulte de l'augmentation de l'effet de serre, hein, ce qui donc réchauffe l'eau de mer. Ils sont aussi le réceptacle de 30% de l'ensemble des rejets de gaz carbonique depuis la révolution industrielle, ce qui conduit à une acidification. Et également, ils sont le réceptacle de l'eau résultant de la fonte des glaces continentales, ce qui crée une montée du niveau de la mer. Ce sont les trois éléments majeurs à l'échelle globale liés au changement climatique qui affectent en fait les océans.
Oui, donc le milieu marin est très sensible, Jean-Pierre Gattuso, aux changements environnementaux, hein.
Oui, les organismes et les écosystèmes marins sont sensibles, surtout lorsque, comme aujourd'hui, ces changements se déroulent d'une manière extrêmement rapide. Par exemple, l'acidification des océans s'est produite dans le passé, oui. Mais l'épisode d'acidification actuel lié aux activités humaines est le plus rapide depuis au moins 65 millions d'années. Donc les organismes n'ont pas le temps de s'adapter et certains disparaissent complètement de certaines régions.
Jean-Paul sur franceinter.fr nous dit ceci avant de poser la question du jour. Il serait intéressant de s'interroger sur l'étendue réelle de nos connaissances quant à ce monde étrange et difficilement explorable que sont les océans. C'est vrai qu'on en a parlé récemment au regard de l'exploration spatiale. Est-ce qu'on ne connaît pas mieux finalement Mars que les océans de notre planète ? Et bientôt le même constat pour une comète grâce à Rosetta, Jean-François Guiglione.
Évidemment, bon, il ne faut pas oublier qu'il y a énormément de missions océanographiques. Là, vous parliez de TARA, mais en fait, oui. Il y a beaucoup, beaucoup de missions océanographiques qui se font aujourd'hui et qui nous font bien comprendre en fait, les différents enjeux qu'il y a au niveau de la mer. Il y a vraiment un épuisement des ressources au niveau de la pêche. Il y a toute cette culture intensive et ces pesticides en fait, qui vont arriver en mer. Il y a l'industrie qui est de plus en plus importante. Il y a une exploitation pétrolière. Et tout ça, en fait, grâce aux différentes missions océanographiques, on arrive à voir l'état des océans et surtout, en fait, essayer de trouver des solutions à ça. Parce qu'on est beaucoup alarmiste sur les problèmes de pollution dans les océans, mais on peut aussi avoir des solutions.
Oui, Jean-Pierre Gattuso, vous partagez quand même le même optimisme aussi. On va quand même donner quelques petites notes ensoleillées au cours de ce dossier.
Absolument. Et pour répondre à votre auditeur, c'est vrai que, comme l'indiquait Jean-François Guiglione, les campagnes océanographiques, c'est évidemment une façon très importante d'évaluer et d'observer les océans. Mais il y a aussi maintenant des programmes d'observation complètement autonomes, par exemple des bouées Argo hein, qui exploitent, enfin, il y a 3000 flotteurs qui déambulent dans les océans et qui envoient leurs données régulièrement. Puis il y a aussi l'océanographie spatiale. On parvient à mesurer la température de l'eau, la couleur de l'océan, le vent à la surface des océans. donc de l'espace à partir de satellites. Donc ces trois facteurs, hein, les campagnes océanographiques, l'observation autonome et l'observation spatiale, nous font qu'on a quand même une assez bonne idée de ce qui se passe dans l'océan, en tout cas dans la partie supérieure de l'océan. C'est beaucoup plus compliqué, évidemment, pour, oui. Pour l'océan profond.
D'ailleurs, Jean-Pierre Gattuso, j'en profite pour dire qu'avec Annie Cazenave, membre de l'Académie des sciences, vous allez participer à une conférence publique mardi 16 décembre prochain, à partir de 14h30, à l'Académie des sciences, justement, Quai de Conti. C'est ouvert au public sur le thème de l'observation du système climatique en permanente évolution. Ce sera l'un des thèmes que vous aborderez. Un message court sur Twitter qui interpelle, celui d'Elisabeth, qui nous dit ceci en quelques mots. L'activité humaine ayant actuellement le plus d'impact sur les océans, c'est la pêche. Vous êtes d'accord avec elle ou pas, Jean-François Guiglione ?
C'est difficile à savoir, en fait. On a plusieurs sources, plusieurs impacts de l'homme, en fait, sur les océans. C'est clair qu'on a un épuisement des ressources. Il y a 80% du stock de poissons qui sont victimes de surpêche. Donc là, évidemment, on peut se poser la question de savoir à quel... Enfin, c'est sûr que ça a un impact. Après, y a d'autres impacts qui sont assez généraux. Et on est vraiment face à de la multipollution et du multi-impact, en fait, sur les océans.
Ouais, mais les pêcheurs eux-mêmes sont confrontés à ce problème du plastique dont on parle dans un instant avec vous. Extrait du documentaire Élémentaire diffusé sur France 24, précisément autour de l'expédition Tara.
Qui jette par terre, jette en mer. C'est vrai, 80%. 80% des déchets qui sont en mer sont d'origine terrestre. Voilà. Typiquement, une bouteille qui ne va pas rester 450 ans dans la mer, mais qu'on va ramener au port et qu'on va mettre dans une filière de recyclage. Celle-ci, elle est sauvée. Enfin, elle est sauvée, elle ne fera pas de mal.
Aujourd'hui, comme souvent, la récolte fait mal au cœur pour ces pêcheurs. Le filet est un condensé de ce qu'ils trouvent le plus.
Des bouteilles de plastique, pleines de petits bouts de plastique, ne se mêlent.
Alors toujours, on a trouvé une télévision qui flottait.
Et si on laisse faire, vous voyez, ce sac-là, eh bien, il va, dans un an, il aura peut-être fait 200 petits morceaux comme ça. Voilà. C'est plus facile de ramasser ce sac que 200 petits morceaux comme ça.
Voilà, Didier Rang, pêcheur de plastique au large de Toulon. Et justement, avec Tara, Jean-François Guiglione, vous avez participé à cette dernière expédition donc en Méditerranée. L'objet, on le disait tout à l'heure, c'était de ramasser malheureusement du plastique dans vos filets. Hein.
Ouais, donc ça a été une mission qui a été dirigée par Gabi Gorski et Marie-Louisa Predotri de l'Observatoire océanologique de Villefranche. Et l'objectif, c'était vraiment de faire un bilan, en fait, de la pollution des plastiques en Méditerranée, parce qu'on a quelques chiffres, mais il fallait faire une mission. On a fait une mission sur 7 mois, oui. Vraiment très focalisée sur la Méditerranée, pour avoir des chiffres vraiment plus précis de ce qu'on a aujourd'hui.
Oui. Alors, ce pêcheur qu'on entendait il y a un instant donc, évoquait justement les microplastiques. Ce sont en fait ces microparticules qui posent réellement problème.
Les macro-déchets aussi posent des problèmes, mais les microplastiques, en fait, c'est tout ce qui est inférieur à 5 mm et c'est les produits de dégradation de la fragmentation, en fait, du plastique. Le plastique, quand il va arriver en mer, il va se couper en morceaux par l'effet des vagues et des ultraviolets, ouais. Et ensuite, il va devenir des tout petits morceaux. Et ça, on se pose vraiment la question de savoir si on va avoir une accumulation de ces microplastiques dans la chaîne alimentaire, parce qu'ils vont être mangés, évidemment, par différents organismes.
La quantité de ces microplastiques, on l'estime à combien aujourd'hui? C'est effrayant, alors, les chiffres sont vraiment...
Aujourd'hui, en fait, on estime que ça représente à peu près 20 000 tonnes de microplastiques, hein, donc c'est à peu près 10% de la quantité de plastique totale. Et encore, on sous-estime cette quantité de microplastiques.
Ouais, Patrick demande sur franceinter.fr, quel est le lien justement entre les plastiques des supermarchés et ces microplastiques dont vous parlez, à savoir combien de temps pour passer de l'un vers l'autre?
Alors ça, c'est vraiment une question intéressante et il faut bien savoir que... La recherche sur les plastiques, elle commence et on a vraiment du mal à répondre à ce type de questions, de savoir exactement le temps que ça prend. Il y a une telle diversité de plastiques aussi qu'on a du mal à voir. Globalement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on estime qu'un plastique, à partir du moment où il rentre en mer et jusqu'à sa dégradation totale, ça prend entre 100 et 400 ans.
Voilà, donc l'échelle est très large, évidemment, malheureusement, puisqu'il résiste pendant extrêmement longtemps, avec des conséquences, les principaux dangers.
Alors, il y en a différents, en fait. Le premier, c'est l'obstruction des voies digestives, hein, au niveau des oiseaux. On connaît l'exemple des fulmars en mer du Nord, dont les tubes digestifs sont remplis de plastique. Ouais. On a des photos qui sont assez impressionnantes là-dessus. Aussi, il y a de l'étranglement. Des tortues et des dauphins, qui sont des prédateurs des méduses et qui confondent les méduses avec les sacs plastiques. Et puis aussi, comme vous le disiez précédemment, là, avec l'exemple des phtalates et leur impact sur la santé humaine, on a une accumulation de polluants plastiques, parce que les phtalates, c'est des produits, des additifs qui sont dans les plastiques et qui peuvent s'accumuler. Donc dans la mission Tara, en fait, ce qui était intéressant sur cette mission, c'est qu'on travaillait de la bactérie jusqu'à la baleine. Ouais. Et on a vu, en fait, au niveau des baleines, on sait qu'il y a une accumulation de phtalates, puisque eux, en fait, ingèrent énormément en fait de ces microplastiques.
Via le plancton aussi.
Voilà, hein. C'est ça.
Alors on va se retrouver dans un instant parce qu'heureusement il y a des solutions aussi et des idées à explorer. Du côté des bactéries en particulier, on va en parler avec vous. Puis avec Jean-Pierre Gattuso, on évoquera la grande barrière de corail et l'acidification des océans. On ira même au Pérou rejoindre Gilles Boeuf qui est biologiste marin, président du muséum et qui assiste en ce moment à Lima à la conférence sur le climat.
You don't have to tell me. You don't have to tell me what I have to do. You don't have to tell me. You don't have to tell me who I have to be. I'm free to live. I'm free to live and love. I'm free to give. I'm free to say goodbye. For you.
Slow Joe and the Ginger Accident à l'instant. L'état des lieux des mers et des océans avec mes invités, le chercheur Jean-François Guiglione avec moi en studio et puis en duplex de Nice, le directeur de recherche du CNRS Jean-Pierre Gattuso. Vos messages nombreux, franceinter.fr, les messages courts sur le mot-clé, l'attaque. Jean-François Guiglione, alors évidemment, il y a ce constat qu'on a fait avec vous de l'étendue des dégâts sur la présence vraiment du plastique, des micro-particules donc dans les océans, en Méditerranée en particulier, suite à la dernière expédition de Tara. Mais vous réfléchissez également à la façon dont on pourrait transformer les choses pour les utiliser à bon escient.
Ouais, si vous faites allusion aux bactéries qui pourraient éventuellement dégrader les plastiques, donc c'est le cas. En fait, on a déjà prouvé à plusieurs reprises que les bactéries sont capables de manger les plastiques. Le processus de dégradation totale du plastique, par contre, il semble prendre plusieurs années. Et ça, ce n'est pas forcément la solution qu'on pourrait attendre. Parce que les recherches dans ce domaine sont très récentes pour l'instant. Oui. Et on a vraiment du mal à savoir la cinétique, le temps que ça prend en fait, pour une bactérie de dégrader du plastique. Les solutions, elles sont plutôt en amont. En fait. C'est le message qu'on passait à chaque fois quand on avait des visiteurs sur Tara. C'est de régler le problème à la source. En fait. On ne trouvera pas de solution vraiment en mer.
Donc déjà, c'est d'essayer de ne pas utiliser du plastique.
C'est ça. Et puis d'améliorer la collecte, en fait. Ce qu'on sait, en fait, sur les pollutions des plastiques en mer, c'est que 20% de cette pollution, elle vient des ménages, de vous, de moi, des personnes qui, à côté de vous, lâchent un morceau de plastique qui va s'envoler et qui, au final, va finir en mer. Donc là, il y a quelque chose à faire. Et puis après, l'autre solution, elle vient aussi de la recherche et l'innovation vers des plastiques qui sont biodégradables aussi. Ça, c'est aussi une solution.
Il y a une idée, par exemple, celle de Rémi Lucas. Il est un entrepreneur à Saint-Malo. Vous le connaissez. Il transforme les algues pour produire justement une matière comparable à du plastique. Il en parlait à l'occasion de ce documentaire élémentaire.
Ça, c'est la granule finie, prête à être transformée en objet. Ce qui est intéressant, c'est qu'on passe d'une granule à une matière très rigide.
Non seulement solide, mais aussi 100% biodégradable. Démonstration.
J'ai pris ce bouchon il y a une heure, je l'ai placé dans cette eau et il est en train de se dégrader et la matière va disparaître dans l'eau. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on ne peut pas remplacer tout le plastique tout de suite, mais on peut commencer à le remplacer déjà à une échelle importante. Et à l'avenir, oui, on pourra remplacer tout le plastique.
Voilà, Jean-François Guéglione, une alternative intéressante ?
Évidemment, oui. De toute façon, toutes les solutions sont bonnes à prendre. Il faut simplement faire attention à comment elles sont utilisées ensuite. C'est vrai que quand on pense au plastique biodégradable, il faut voir qu'ils sont biodégradables dans certaines conditions seulement. Certains sont compostables seulement, donc ça veut dire qu'il faut les récupérer, les collecter. Et ça, c'est le problème vraiment initial à la base, c'est de vraiment collecter un maximum de plastique.
Donc, ouais. Voilà. Encore un mot sur les bactéries dont on parlait il y a un instant avec vous. Qu'est-ce que vous avez observé sur leur comportement face justement à de la matière plastique ?
Alors ça, c'est un monde qui est vraiment fascinant, c'est un monde qui est invisible et qui s'adapte très vite à son environnement. Le plastique, ça date des années 60-70. Donc du coup, en fait, les bactéries ont dû s'adapter à ce nouvel environnement et elles l'utilisent en fait comme une maison, comme un habitat en fait. Et donc elles viennent se mettre sur ces plastiques et puis elles utilisent les autres molécules qui viennent s'accrocher à ces plastiques. Donc notamment des polluants, mais il y a aussi de la matière organique qui se met sur ces plastiques.
Donc il y a de véritables écosystèmes qui se créent autour du plastique,
tout à fait,
via les bactéries.
Tout à
elles
fait.
S'en nourrissent aussi ou pas ?
Et donc après, la question c'est ça, c'est à la fois elles les utilisent comme des écosystèmes, des petites maisons qui sont là et des supports, et à la fois aussi elles sont capables de les dégrader.
Jean-Pierre Gattuso, vous avez travaillé sur le dernier rapport du GIEC. En matière de réchauffement des eaux, les nouvelles étaient plutôt meilleures depuis l'an 2000 jusqu'en 2013, avec justement ce réchauffement qui s'était stabilisé avant de repartir à la hausse. Qu'est-ce qui d'abord était à l'origine de cette stabilisation ? On le sait ou pas ?
Vous parlez de la stabilisation du réchauffement dans l'atmosphère, pas dans l'eau de mer. L'eau de mer continue à se réchauffer. Quant à l'augmentation dans l'atmosphère qui s'est stabilisée, c'est très, très discuté. Il y a beaucoup d'hypothèses et ce n'est pas ma spécialité, donc je ne pourrais pas répondre à ça. Mais on estime qu'il y a peut-être eu un transfert plus important de chaleur dans l'océan profond. C'est une des hypothèses, mais il y en a d'autres.
Oui. Les conséquences du réchauffement, justement, sur les eaux du globe ne sont pas les mêmes partout. J'imagine que selon les endroits où on se trouve, on constate des choses très différentes les unes des autres.
Oui, absolument. Alors, l'ensemble de l'océan se réchauffe. En moyenne, globalement, l'océan de surface s'est réchauffé depuis 1970 d'environ 0,1 degré par décennie. Et on pense qu'en moyenne, l'océan de surface se réchauffera encore de 2 degrés. Alors, tout ça, c'est inégalement réparti à la surface des mers et des océans. C'est dans l'Arctique que le réchauffement à venir sera le plus important, puisqu'on estime que, alors que c'est 2 degrés en moyenne, ça sera peut-être 4 ou 5 degrés dans l'Arctique, dont des changements considérables. Dans les tropiques aussi. Alors, les tropiques, la question, vous mentionnez les récifs coralliens, c'est qu'il y a beaucoup d'organismes dans les tropiques qui vivent déjà à proximité de la limite supérieure de température qu'ils peuvent supporter. C'est le cas de certains coraux. Et donc, lorsqu'il y a eu des épisodes de réchauffement un petit peu extrêmes, il y a des problèmes de blanchissement et de mort de certains coraux. Ce qui, évidemment, pose un problème pour la maintenance des récifs coralliens.
Ça modifie aussi considérablement le déplacement des espèces marines, le réchauffement ?
Absolument. toutes les espèces, en fait, ont tendance, celles qui sont mobiles, évidemment, ont tendance à se déplacer vers les pôles, de manière à rester dans une zone confortable de température. Et il y a certains groupes de phytoplancton, par exemple, qui sont déplacés de plusieurs centaines de kilomètres vers les pôles, vers le pôle nord dans l'hémisphère nord et vers le pôle sud dans l'hémisphère sud.
Bender sur Twitter, Jean-Pierre Gattuso, vous pose cette question. Quel est le rôle du méthane dans l'acidification des océans et surtout dans l'Arctique ?
Alors, le méthane dans l'Arctique s'il y a des émissions de méthane, contribue à l'acidification parce que l'essentiel du méthane qui arrive du fond de l'Arctique, en fait, est oxydé durant son transit vers la surface de l'Arctique et est transformé en CO2. Donc c'est une petite contribution à l'acidification de l'Arctique.
Une petite contribution ?
Oui, l'essentiel de la contribution, ça vient de l'air.
Oui. Vieron nous dit ceci, l'acidification des océans est un réel problème. Est-ce que c'est le cas donc pour la formation des coraux ? Alors est-ce que là aussi, vous pouvez nous en dire un peu plus, Jean-Pierre Gattuso ?
Oui, les coraux, comme tous les organismes qui ont un squelette ou une coquille calcaire, comme les huîtres et les moules, donc pour fabriquer ce calcaire, ont besoin de deux briques élémentaires, la brique carbonate et la brique calcium. Il y a beaucoup de... puisque le calcaire, c'est du carbonate de calcium. Il y a beaucoup de calcium dans l'eau de mer, mais la brique carbonate devient en quantité limitante lorsque l'eau de mer s'acidifie, ce qui pose problème à beaucoup d'organismes, en fait, à coquilles et à squelettes calcaires. Les coraux en font partie, donc c'est un facteur... disons, de stress pour les coraux additionnels par rapport au blanchissement.
Un message de Thomas qui nous dit ceci, je vis dans le sud de l'île de la Réunion, bon, on le salue, à Saint-Pierre, un petit lagon baigne la ville, je suis nageur assidu et je constate une dégradation rapide des coraux qui forment la barrière. Les activités humaines, notamment les pêcheurs qui marchent sur les coraux à marée basse, en sont une des causes. N'y a-t-il aucune loi qui interdise ce genre de pratique ? Que faire pour sensibiliser la population ? Alors Jean-Pierre Gattuso.
Alors je connais assez peu la situation particulière de l'île de la Réunion, mais je connais plusieurs collègues qui travaillent sur ce récif. D'abord, il y a une zone qui est protégée, mais qui n'est pas protégée évidemment pour les touristes de marcher sur les coraux. Évidemment, c'est assez destructeur. Il y a un autre problème à la Réunion, c'est qu'il y a pas mal d'agriculture, l'utilisation d'engrais, et ces engrais se retrouvent dans le lagon, qui pose problème. Ça peut créer des efflorescences d'algues qui recouvrent les coraux et les étouffent en quelque sorte. Donc l'histoire de la Réunion, c'est assez exemplaire. Ça montre que, je vous parlais tout à l'heure des problèmes globaux que sont le réchauffement, l'acidification, mais il y a des facteurs locaux de dégradation des récifs, évidemment, et les apports de fertilisants et les destructions liées au développement des côtes et au tourisme contribuent aussi à cette dégradation.
Viron sur franceinter.fr nous dit ceci, justement les lessivages à l'intérieur des terres, des pratiques agricoles industrielles qui transportent les polluants vers les mers ou océans sont des pratiques sous-estimées et dont les conséquences sont très préjudiciables. Qu'en pensez-vous, Jean-François Guiglione ?
Et effectivement, en fait, on a une modernisation de l'agriculture, donc culture intensive, donc une augmentation des engrais et des pesticides. En France, il faut savoir que le glyphosate, c'est un herbicide du Roundup. Il est retrouvé dans 3 cours d'eau sur 4, avec 4000 tonnes vendues par an. Donc et ce glyphosate, en fait, il a une dégradation très très lente, donc on va forcément le retrouver en mer. Ça, c'est difficile à estimer. Il faudrait faire des suivis plus fréquents à différents points pour savoir exactement la quantité qui finalement arrive en mer. Et globalement, quand on a des données, on se rend compte que la dilution est très très rapide. Par contre, son effet sur les organismes, ça par contre est beaucoup moins connu.
Oui. Cette question de David, pour les plastiques en Méditerranée, est-ce qu'on connaît l'origine ou non suivant les pays ? Autrement dit, y a-t-il une différence entre l'impact des pays à un niveau de vie plus élevé avec le traitement des déchets et ceux à faible niveau de traitement ?
Ça, c'est une question qu'on avait... On a eu 12 000 visiteurs sur Tara et Scolaire qui sont passés sur Tara dans les 20 escales des 13 pays. Ils nous ont tous demandé, en fait, est-ce qu'il y a plus de plastique devant chez nous ? Et la réponse, en fait, c'est que la pollution, elle ne connaît pas de frontières en mer. Donc, sur des molécules de plastique qui vont durer 100 à 400 ans, quelque chose qui est posé à un endroit va être retrouvé par nos enfants et nos petits-enfants à un autre endroit. Donc, il faut bien voir qu'il y a une dispersion très, très importante de ces plastiques. Et un exemple, en fait, c'est On a un exemple qui est connu, une petite anecdote de 30 000 canards qui ont été des petits canards jaunes qui ont été qui sont tombés d'un conteneur et, ouais. et ils ont fait le tour de la planète. Ils sont partis du Pacifique Nord et ils sont arrivés jusque sur nos côtes.
Allez, une anecdote justement de Yves. En 95, on a fait un convoyage au large des côtes espagnoles. On a eu l'idée de mesurer la fréquence de déchets de surface à des vitesses de 8 nœuds. Réponse 1 toutes les 20 secondes. Et puis Geneviève nous salue de la Vendée où nous repérons, dit-elle dans son message, sur les plages des centaines de petites billes plastiques. Allez, on se retrouve dans un instant, la suite de ce dossier après Johnny.
Quand on aura la foi de ne plus croire au temps, de laisser notre histoire partir au gré du vent. Quand on aura la force de maquiller nos plaies, de masser notre cœur d'amoureux oubliés, il faudra leur dire, peu importe les mots tant qu'il y a des soupirs, qu'il y aura d'autres flots où tes larmes vont fuir. Je t'attendrai comme on attend le ciel et ses odeurs d'orage et de plus belles nuits pour de nouveaux partages. Comme on attend la flamme au bûcher malheureux, j'attendrai si je tiens et tu tiens pour nous deux. Je reviendrai à temps quand tes nuits seront tristes, si le sable et le vent ont effacé nos pistes. Je reviendrai pour nous, pour de plus beaux adieux. J'attendrai ton regard pour me livrer à Dieu. Il faudra leur dire t'attendrai.
Vous écoutez La Tête au Carré sur France Inter, l'état des lieux des mers et des océans avec les chercheurs Jean-François Giglione à Paris, Jean-Pierre Gattuso à Nice et Gilles Boeuf au Pérou. Bonjour Gilles Boeuf.
Bonjour à tous.
Vous êtes biologiste marin, président du Muséum National d'Histoire Naturelle et vous êtes avec nous depuis Lima, où se tient jusqu'à demain la conférence sur le climat. Quelle a été la place du milieu marin dans les discussions, Gilles Boeuf?
Assez importante, d'autant plus que, comme ça se déroule au Pérou, le Pérou est quand même l'un des plus grands producteurs de pêche au monde. Il est bordé par une très grande partie de l'océan Pacifique. On en a beaucoup parlé et on a eu d'ailleurs une discussion avec le ministre de l'Environnement hier après-midi, avec la ministre Ségolène Royal, des parlementaires et des sénateurs sur la question effectivement de l'océan, de son rôle dans le dérèglement climatique et le rôle du dérèglement climatique sur la santé de l'océan.
Donc c'est un chapitre important des discussions.
Disons que je l'aurais imaginé encore un peu plus important, mais enfin on en parle quand même, c'est un peu mieux que la façon dont avait été l'océan à Rio.
Ouais. Quelles sont les conséquences du réchauffement climatique justement sur la biodiversité marine péruvienne, Gilles Boeuf, puisque vous êtes là au bord du Pacifique?
Oui, vraiment, juste en face. Écoutez, sur l'océan ici, c'est pas énorme, parce que vous savez que le Pérou est dans une situation géographique particulière, un désert qui borde cet océan, puisqu'on est sur des zones de remontée d'eau froide antarctique, le courant de Humboldt, ici, est très particulier, amène énormément de détriments des eaux froides du fond vers la surface, explique qu'on a les plus grands rassemblements de poissons au monde, hein, le nord du Chili, le sud du Pérou, et c'est vrai que c'est très difficile d'imaginer sur les variations des stocks ce qui est de l'ordre d'un dérèglement climatique ou de fluctuations qu'on a toujours vu ici, en fait. Hein. Et on parle aussi de surpêche, mais pour les pélagiques, c'est pas tellement évident. Les impacts des phénomènes El Niño sont plus importants sur les stocks que d'éventuelles surpêches. Je parle de ces poissons particuliers que sont l'anchois, le chinchard, la sardine ou le maquereau. Donc ici, c'est beaucoup plus important l'impact du dérèglement climatique sur la forêt tropicale amazonienne et sur les glaciers. Alors, on a un rythme de fusion des glaces ici au Pérou unique au monde. Le Pérou a la plus grande masse de glaciers intertropicaux au monde. Et là, il recule de façon absolument incroyable depuis une trentaine d'années.
Cette question de Patrice, peut-être pour vous d'ailleurs, Gilles Boeuf, qui nous dit ceci. Quelles sont les perspectives à l'échelle d'une entente mondiale pour ces trois atteintes aux océans? La vigilance sur les dégazages, déballastages des pétroliers, l'interdiction de la production des sacs plastiques et les techniques de récupération de ces sacs déjà en mer. Est-ce qu'il se dit des choses à ce sujet?
Non, parce que pour l'instant, on est uniquement basé sur le climat ici. Donc, le dégazage est un autre sujet, les matières plastiques également. Donc on ne parle pas ici des fameux continents de plastique. Les gens en sont conscients ici au Pérou, on en a parlé, mais c'est pas lié au dérèglement climatique. On est beaucoup plus focalisé sur des zones où il ne pleuvait jamais, où il a commencé à pleuvoir,
oui.
Et des zones à l'inverse où il pleuvait un peu et qui vont être totalement sèches maintenant. Donc ils sont très inquiets par les précipitations. D'autant plus que le Pérou, son énergie, il attire énormément de l'hydroélectrique. Il y a énormément de barrages et on peut imaginer que si les choses évoluent comme elles se passent en ce moment, et bien sûr, le seront secs et le Pérou perdra énormément de capacité en matière de production hydroélectrique.
Jean-Pierre Gattuso, vous souhaitez réagir depuis Nice?
Oui, j'adhère totalement à ce qu'a dit Gilles Boeuf, bien sûr, et je voudrais souligner que quand même la place de l'océan dans les négociations visant à la réduction des gaz à effet de serre est extrêmement faible, même si ça semble augmenter à Lima. Et donc tout l'enjeu de la conférence climat de Paris en 2015, c'est de faire remonter l'océan dans la liste des éléments à considérer. C'est quand même 95% du volume propice à la vie et qui rend beaucoup de services écosystémiques. Et malheureusement, la plupart des critères qui sont utilisés dans la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies pour le changement climatique, tous ces éléments, en fait, ont trait au climat. On parle souvent de la limite, on ne veut pas augmenter la température de l'air de plus de 2 degrés et on oublie totalement ce qui se passe dans l'océan. Et donc, notre groupe, Océan 2015, a pour objectif de faire remonter l'océan mettre l'océan sur le tapis des négociations.
Merci en tout cas, Gilles Boeuf, pour ce petit coup de fil depuis Lima au Pérou. Et puis demain, justement, dans la une de la science, on sera en ligne avec Jean Jouzel du GIEC pour faire un point précisément et un point de conclusion sur cette conférence climat de Lima. À bientôt, Gilles Boeuf. Merci.
Merci à tous. À bientôt.
Un message justement d'un autre Gilles sur franceinter.fr. Il nous dit ceci. En 93, arrivant par la mer au port de Manille aux Philippines, je me souviens de la surveillance mise en place 3 heures avant l'arrivée des personnes sur Terre, tellement les objets flottants de toutes sortes étaient nombreux. Je n'ose même pas imaginer 20 ans plus tard ce qui s'y passe. Chris, une question. Quid de la dégradation des plastiques par les UV ou autres rayonnements solaires? Est-ce qu'il pourrait y avoir une action industrielle de ces actions de dégradation?
Alors les plastiques sont créés en fait pour résister de plus en plus aux UV. Et parce que c'est la première étape de dégradation en fait. On se rend compte, vous avez certainement tous observé, quand on prend une bouteille et qu'on la laisse à la lumière, aux UV, en fait, elle commence à s'oxyder. Donc en fait, c'est un phénomène qui existe naturellement dans le milieu.
Quoi. Ouais. Bernard nous dit ceci, vous focalisez sur les plastiques en mer, c'est très bien, mais vous oubliez soigneusement, dit-il, de parler des pollutions chimiques et par les métaux lourds qui rendent certains poissons presque impropres à la consommation.
Oui, c'est évident, c'est ce que je disais tout à l'heure. En fait, on est face à une multipollution. Et donc, effectivement, il y a plein de sources de pollution différentes, dont les métaux lourds, ça c'est sûr.
Jean-Pierre Gattuso, l'UNESCO envisage d'inscrire la Grande Barrière de Corail australienne sur la liste du patrimoine mondial en péril. Que représente d'abord ce joyau marin, en nombre d'espèces, par exemple ?
La Grande Barrière de Corail, c'est la structure bioconstruite la plus grande de la planète. Ça fait 2200 km de long. Ça abrite 600 ou un peu plus de 600 espèces de coraux. Mm-hmm. Donc une biodiversité fantastique et donc une ressource aussi fantastique pour l'Australie. Ça génère beaucoup d'argent aussi par la visite des touristes.
Oui, 2300 km sur la côte nord-est donc de l'Australie. Quels sont les phénomènes, les actions humaines, donc en l'occurrence, qui menacent actuellement cette grande barrière ?
Donc il y a les facteurs d'origine globale, comme je le disais tout à l'heure, que sont le réchauffement et l'acidification, surtout le réchauffement en ce moment. Mm-hmm. Et puis les actions locales qui sont l'apport de fertilisants, d'engrais, une explosion qui est assez mal comprise d'une étoile de mer qui mange les coraux. C'est une étoile de mer qu'on appelle la couronne d'épines. Mm-hmm. Et puis la construction de ports, c'est ça qui justifie le mécontentement de l'UNESCO vis-à-vis de la Grande Barrière. Il y a un port extrêmement important qui est en construction ou qui a été approuvé à proximité de la Grande Barrière de Corail et qui va générer une très très intense sédimentation. Les sédiments et les coraux, ça ne fait jamais bon ménage. Et donc voilà, ce qui fait que la Grande Barrière va mal depuis, on estime que le recouvrement des coraux sur la Grande Barrière de Corail a diminué de moitié depuis 25 ans. C'est quand même une dégradation qui est assez importante.
C'est important, c'est effrayant. Quand on se met à faire des projections, ça veut dire quoi à moyen terme ?
Eh bien, il y a des endroits qui vont mieux sur la Grande Barrière que d'autres. C'est surtout dans le sud que ça ne va pas très bien. Mm-hmm. Donc on espère qu'il va y rester des réservoirs en fait, de biodiversité à partir desquels la recolonisation des coraux sera possible. Mais il faut évidemment que les facteurs de stress diminuent. Et je pense qu'il est très important pour vos auditeurs de signaler que tout n'est pas perdu. L'état est alarmant, vous l'avez dit en introduction. Mais on peut faire quelque chose. On peut réduire le réchauffement, on peut réduire l'acidification. On peut réduire la pollution par les plastiques. Il faut être très entreprenant. Il faut que les décideurs prennent ça à bras le corps. Mais tout n'est pas perdu. On peut encore améliorer et stopper cette dégradation qui peut être alarmante. Oui,
oui, Jean-François Guiglione.
Ouais, c'est vrai qu'on a peut-être l'impression d'avoir trop mis l'accent sur les signaux d'alarme, sur plein de problèmes qui sont vraiment réels, des problèmes de changement climatique, d'effet de serre, de pollution, de l'eau, de l'air. C'est vrai qu'une émission comme ça n'aurait pas forcément intéressé nos grands-parents. Donc c'est un problème qui touche vraiment notre génération, mais peut-être qu'on ne met pas aussi l'accent vers les solutions, donc les questions de diminution du gaspillage, une meilleure efficacité sur l'énergie, une diminution des pollutions volontaires, la collecte, etc. Donc je pense qu'il y a un débat qui doit aller vers la société maintenant pour montrer les solutions. En fait.
Oui. L'acidification des océans, pour terminer, Jean-Pierre Gattuso, également concerne la Grande Barrière de Corail ?
Oui, c'est un phénomène qui se déroule partout dans l'ensemble de l'océan, puisque l'océan absorbe chaque jour globalement 25 millions de tonnes de CO2. Et ce CO2 en fait, pénètre dans tous les océans, l'océan autour de la Grande Barrière de Corail, comme l'océan Arctique ou l'océan Austral. Oui.
Anne nous dit ceci, pourquoi la législation n'est-elle pas plus stricte pour les industriels ? On nous demande de trier nos déchets, mais on n'est pas très contraignant pour qu'ils emballent moins ou mieux leurs produits. Qui veut répondre, Jean-François Guiglione?
Je pense que là, c'est vraiment un choix du consommateur aussi. De plus en plus, on a des légumes qui sont emballés. Pourquoi choisir ces légumes-là par rapport à ceux qui ne sont pas emballés? Donc, et ce que je voudrais rappeler, c'est que on sait que plus de 20% en fait, des déchets qui arrivent en mer proviennent des ménages, proviennent de nous. Donc on a aussi une c'est vrai qu'il y a... Il y a le côté industriel, mais on met souvent en fait, trop l'aspect sur les industriels et on a, d'un point de vue citoyen, des actions à mener dans ce sens-là.
Merci en tout cas à tous les deux, Jean-François Guiglione et Jean-Pierre Gattuso. Il faudrait qu'on fasse un volet plus optimiste, alors finalement, une deuxième tête au carré avec vous pour montrer tous les aspects positifs. Et il y en a, heureusement, autour de cette question des mers et des océans. Merci Jean-Pierre Gattuso et ainsi qu'aux équipes de France Bleu Azur qui nous ont permis de réaliser ce duplex depuis Nice aujourd'hui. Affaire sans sensible, Fabrice Drouel. C'est dans quelques minutes. Bonjour.
Bonjour Mathieu.
Quel sera le sujet aujourd'hui de l'émission ?
Vous vous souvenez de la vague d'attentats de détournement d'avion par les Palestiniens dans les années 70 et 80 ? Eh bien, le dernier acte, c'était sur un bateau, l'Aquile, l'Oro. C'était en 1985. C'est donc l'histoire que nous allons vous raconter avec comme invité Bertrand Ravenel, historien spécialiste du conflit israélo-palestinien.
À tout à l'heure.